Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
RMC. Inbound the card right to Jordan, time winding down, Michael for three, yeah, yeah, yeah! Basket time. Final seconds, Bryant for the win!
Pierre Dorian.
Basket Time, c'est parti sur RMC, comme tous les mardis, à retrouver en podcast sur rmc.fr. On a sorti la grosse équipe avec Alex Biggerstaff, Fred Pace et Stephen Brun. Salut bon les gars.
Bonjour. Allez mon petit Pierrot.
T'as cru que je faisais une vanne sur le nom d'Alex, encore une fois, toujours la même vanne, toute l'année, au même moment,
running,
à la même
running
heure.
Running gag.
Messieurs, c'est un spécial play-off. Spécial play-off, play-in, parce que play-in, ça n'a pas la même signification que play-off. Malheureusement, je ne saurais pas vous expliquer la nuance.
c'était bien parti.
Alors, évidemment, on va se projeter sur le tableau de la NBA. Est-ce qu'il y a un favori qui se dégage selon vous? Ça sera notre première question. Et puis, un focus quand même sur les Nets. Est-ce le piège ultime? Brooklyn qui a fait une saison avec ce qu'il pouvait, avec ce qui était disponible à ce moment-là, et qui va retrouver finalement Irving et Durant au meilleur moment, c'est-à-dire là où ça compte vraiment. Et puis enfin, dans la partie historique, vous allez me dire... Quel joueur a réalisé la meilleure campagne de play-off dans l'histoire de la NBA? Ah, c'est très subjectif, même si, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, bon, bah, ça va être Jordan, hein. Il y aura Jordan 91, Jordan 92.
Ça, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un joueur de Sacramento, vu que ça fait 16 ans qu'il ne fait pas les play-offs.
Oh, quoique, ça pourrait être Chris Weber, par exemple.
Peut-être, oui.
Pourquoi pas? On n'a jamais parlé de Chris Weber, je pense,
sur ta terrasse, on parle beaucoup de Weber.
On n'a jamais parlé des Kings non plus. Hein.
Sur ma terrasse, on parle beaucoup de Weber. Je l'ai pas, Steve,
barbecue,
je l'ai pas.
Barbecue.
Ah. Alors, le quiz, ce sera un quiz de fin de saison. Hein. Playoff, play-in, actuel ou passé.
Combien d'étoiles? Difficulté?
Difficulté, 3 étoiles sur 5, je pense. Okay. C'est du grand
c'est exactement la même chose que la semaine dernière. Difficulté 3 sur 5, quiz de fin de saison. Ah, merci.
Voilà. Ouais, mais il était très bien le quiz.
T'es un recycleur. Ouais.
Non, pas du tout, parce que c'est pas les mêmes questions.
Ah, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est les mêmes questions que la semaine dernière.
Oh, l'orgueil.
Moi, ça pourrait être plus sur les mêmes questions, parce que moi,
parce que si c'est les mêmes questions que la semaine dernière, je suis même pas sûr que Fred gagne.
Je les ai pas notées, alors, je suis pas sûr.
Je pense que ça peut très bien passer à la trappe. Allez, c'est un basket time spécial playoff. Basket time que vous retrouvez tous les mardis sur rmc.fr.
Of course, I'm talking about the NBA playoffs.
The NBA playoff field is set. Miami and Boston are your top two seeds in the East. They await the play-in winner. Same goes for Phoenix and Memphis out west. Nick, when you look at this playoff field, not on the line for a lot of guys, but which five need a round one win the most, in your opinion?
Pour être journaliste aux États-Unis, il faut pas s'y connaître. Il faut juste parler comme Barack Obama, c'est tout. Hein.
Yeah, of course. Fais-nous 30 secondes là
en anglais ou en français? En anglais, je suis pas capable. En anglais.
Vas-y.
Je préparerai la semaine prochaine, okay. Je faut que je prépare, là, sinon ça va être trop ridicule. Alors, on va démarrer par les affiches connues de premier tour de play-off, hein, c'est-à-dire sans prendre en considération les matchs de play-in qui démarrent la nuit prochaine. Donc, on a Dallas-Utah. Et Golden State Denver à l'ouest, Dallas Utah. Sur le papier, Dallas était favori sur la fin de saison, mais c'était sans compter la blessure au mollet de Luka Doncic, mon cher Stephen.
Ouais, ça change un petit peu la donne. On connaît pas l'état de forme de Luka Doncic. Alors l'avantage, c'est que la série commence dans la nuit de samedi à dimanche, donc il y a un petit peu de temps. On parle juste d'une contracture. Écoute, moi, je vais faire comme si Luka Doncic était là.
Alors s'il est là, qu'est-ce qu'on dit?
À mon avis, il sera là. Il va serrer. Oui, il veut absolument y être, donc il sera.
Écoute, cette série, c'est la destinée d'une franchise pour Utah. Et là, je parle du Jazz. Si Utah s'écroule au premier tour, je pense que c'est terminé. Ça explose. Ça nous fait une belle intersaison.
Avec des joueurs majeurs à transférer.
Après, les dynamiques sont totalement différentes. Dallas, c'est 20 victoires sur les 27 dernières rencontres. Utah a très peu gagné sur la fin de saison. Ils ont lâché des matchs alors qu'ils étaient à plus 25 contre les Clippers, à plus 21 contre les Warriors. Et puis, cette équipe de Dallas, c'est un cauchemar, en fait, parce que Rudy Gobert va devoir défendre la l'intégralité quasiment de la rencontre sur Luka Doncic parce qu'ils vont provoquer ce switch défensif. Et on a vu qu'en saison régulière, eh ben, la mismatch, elle était pas super bonne pour Rudy Gobert.
Mais pourquoi elle est pas super bonne? Parce qu'à Utah, ils sont pas capables de lui donner le ballon en attaque pour faire payer. Donc, forcément, de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Bah, lui, il va manger à chaque fois.
Lui, il va manger à chaque fois. Fred, explique-moi un truc, ça changerait quoi? Et je suis vraiment pas ironique, c'est pour comprendre parce que là, j'ai compris le sens de ton propos, mais je n'ai pas compris en termes de basket. Qu'est-ce que ça changerait défensivement pour Utah de donner le ballon à Rudy Gobert en attaque?
Pas défensivement, mais au moins tu pourrais faire payer. En fait, la problématique de Rudy Gobert, c'est qu'il va se retrouver effectivement à défendre sur des extérieurs.
Ce qui va être difficile.
Donc, on l'a vu, c'est une vraie difficulté pour lui. Par contre, si de l'autre côté, quand il y a des switches, ou quand on donne le ballon à Rudy Gobert, s'il fait payer, il a une raison de rester sur le terrain. Donc, quelle est la raison de Rudy Gobert de rester sur le terrain s'il se fait manger en défense?
C'est-à-dire
sur l'attaque, il punit pas.
C'est-à-dire que pour une fois, l'apport principal de Rudy dans ce match-là serait plus offensif que défensif, c'est ce que tu veux dire.
Il pourrait au moins sanctionner un petit peu.
Oui, parce que le secteur intérieur de Dallas est pas très grand en taille, parce que je suis pas sûr que Boban Marjanovic joue beaucoup, donc c'est du Dwight Powell, du Maxi Kleber. Donc c'est petit en taille. Maintenant, le problème de Utah, c'est que mis à part Rudy, quand Rudy n'est pas sur le terrain, c'est une calamité défensive et je ne vois pas comment ils vont stopper Luka Doncic en premier, Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie. J'ai peur pour le Jazz sur cette série. Si Luka est à 100%, ça me paraît compliqué pour
un sweep.
Mais tu l'as dit direct.
Un sweep.
Stephen, tu l'as dit direct. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Directement, ils vont faire des pick and roll pour faire switcher. D'accord? Ensuite, ça va faire payer Rudy Gobert. Comme il fait pas payer en attaque, il va aller s'asseoir. Et après, ça sera boulevard. Ils vont aller dans tous les sens pour marquer des points. Tranquillement.
Et alors, est-ce que Dallas peut imposer ça, ce match-up-là? Ou est-ce que Utah a des solutions, pour s'adapter, justement, à cette opposition que Dallas a intérêt à faire vivre entre Doncic et Gobert?
Encore une fois, qu'est-ce que tu veux qu'ils proposent? À un moment, ils vont être obligés de switcher, donc c'est impossible. Et encore une fois, l'attaque va pas permettre de sanctionner. Donc honnêtement, pour moi, Rudy, quand il est sur le terrain, c'est le seul qui défend, sauf qu'il va être obligé de ne pas être sur le terrain. Ils seront meilleurs sans lui.
Je pense qu'Rudy va jouer small ball à un moment. Whiteside, c'est pareil, hein, il va manger aussi. Donc
bien sûr, pour moi, ça serait la seule solution dans ce match-up particulier, de tenter le small ball. Alors, pas tout le match.
Avec Bogdanovic,
par exemple. mais tu vois ce que je veux dire? Tenter le coup, pour moi, c'est une solution à proposer.
Alors, qu'est-ce qui pourrait redonner de l'espoir aux fans du Jazz, s'il y en a?
Franchement, moi, j'en ai pas dans ma poche.
Moi, j'en ai une. Perdent, qu'ils se fassent éliminer et que tout change l'année prochaine. Ça, c'est un vrai espoir.
Pour le Jazz, c'est que Luka puisse pas jouer.
Parenthèse, vous avez déjà rencontré dans votre vie un supporter du Jazz, en dehors de ceux qui sont peut-être déjà allés à Salt Lake City? Non, mais je déconne pas.
Je coche aucune des cases, franchement.
Boris, peut-être. Il a encore une maison là-bas, il a une Utah, peut-être que Babac est supporter du Jazz.
Je pense qu'il a plus de souvenirs à Phoenix qu'à Utah, non?
Quand j'entends Stephen et Fred parler de ça, Pierrot, c'est quand même une très belle forme d'ironie quand on voit la saison du Jazz de devoir compter sur la seule possibilité en attaque de pouvoir faire jouer Gobert et de sanctionner Dallas. Quand tu vois la saison du Jazz, c'est quand même une forme d'ironie, mais exceptionnelle. Si c'est lui le seul probable sauveur offensif de Utah, c'est que c'est très grave pour le Jazz et que ça va être franchement, je pense, très affreux.
Ça va être violent, tu penses? Je pense que ça va être une bouffée. Je mets 4-1 facile.
Sauf si Utah filoche sévère, parce qu'ils n'ont pas de plan B, Utah. Utah, c'est tout pour le tir à 3 points.
Oui, après, Donovan Mitchell peut être en feu.
S'ils mettent dedans, c'est pas pareil. Mais le problème, c'est que s'ils ne mettent pas dedans, Quinn Snyder, j'adore Quinn Snyder, mais il n'y a pas de page à tourner.
Même s'ils mettent dedans, Stephen, ils peuvent se prendre rafale aussi de l'autre côté, parce que ça peut les entraîner.
Alors que c'est sur le papier, l'opposition
4-5,
c'est censé être la plus indécise.
Et d'habitude, le 5 surprend assez souvent en plus.
Golden State Denver.
Tout dépendra de Steph Curry.
Pareil.
Si Curry joue ou Curry joue pas, il a pas joué la fin de saison.
C'est-à-dire avec
en
Curry.
En fait, à chaque fois qu'il y a une série, oui. Alors tout dépendra de.
Non mais c'est
avec Curry
que tu
ça
swing,
passe. Fred. Avec Curry, Golden State s'impose à coup sûr.
Avec Curry, oui.
Ouais. Avec Curry, oui.
D'accord.
Sans Curry,
sans Curry, c'est un peu amer. Hein.
Ça manque de sel, sans Curry.
Non mais c'est-à-dire que Denver sur ses forces vives, alors même si ils ont
Denver n'aura ni Porter ni Murray, apparemment.
Voilà, mais c'est des absents de longue date.
Voilà, ils savent jouer sans déjà.
On connaît leur niveau sans ces joueurs-là.
Parce que si
ils sont pas capables de battre le Golden State au complet.
Ah, ça me paraît compliqué, trop d'armes. Clay Thompson revient chaud bouillant. Jordan Poole est
exceptionnel.
Andrew Wiggins, Draymond Green, Steph Curry. Il y a beaucoup d'armes. Et le problème, c'est que à Denver, le seul gros défenseur sur les postes extérieurs, c'est Aaron Gordon, qui va devoir se coltiner soit Clay Thompson, soit Steph Curry. Et après, c'est Montemori, c'est Will Barton. Et eux, les mismatchs, elles sont pas favorables face aux autres extérieurs. Donc, Nikola Jokic, certes, cette saison, je crois, il a à 30 points, 16 rebonds, 9 passes de moyenne contre les Warriors.
Green va essayer de tout faire pour le réduire aussi. Oui. Au maximum, lui, il va tout donner. Lui, il a même pas regardé le ballon en attaque. Il va être sur lui, sans arrêt, sur ses côtes. Et voilà, quoi.
Mais alors, tout à l'heure, on va faire
3-1 à Denver, en saison régulière.
3-1 pour Denver.
Oui.
Avec
il y a des matchs, où Curry a pas joué, où Klay Thompson n'était pas là au début de saison.
Tout à l'heure, on fera un débat sur la plus belle campagne de play-off réussie par un joueur dans l'histoire. Est-ce que Jokic n'est pas capable de ça, de porter une équipe à ce point-là, Alex?
C'est peut-être trop prévisible en fait. On connaît le jeu de Denver, il est basé à même pas 100%, mais à 150% sur Jokic.
On parlait pas de plan B pour Utah, il y a pas trop de plan B non plus pour Denver.
C'est assez similaire,
C'est trop compliqué.
Je vois pas quelle gâchette.
Il faut gagner 16 matchs avec Nikola Jokic comme seule arme. C'est un peu trop faible autour de lui, je pense, que pour passer sur toutes les équipes à l'Ouest, Pierrot.
Et alors Golden State, au-delà de ça, donc si on en considère que Curry, alors est-ce qu'il y a des infos fraîches d'ailleurs sur Curry?
Steve Kerr a dit il y a des chances qu'il joue, mais il y a des chances qu'il joue pas aussi. Donc rien voulu.
Ça tend sur le positif.
Ils font une antique aussi. Ils font une antique sur mais après, en gardant au maximum les informations.
Ça c'est la vraie info de ce premier tour de playoff, Pierrot. C'est quand tu regardes, Fred le disait en rigolant, mais c'est vrai, t'as une incertitude au niveau d'un joueur majeur à chaque série. On a parlé de Luka Doncic, t'as Steph Curry, mais de l'autre côté, t'as Jared Allen avec Cleveland.
Il jouera pas le
Ben Simmons, il peut peut-être revenir pour le premier tour selon Shams Charania, mais personne n'y croit vraiment. On a dit Porter Emery absent du côté de Denver. Kawhi Leonard, c'est pas encore sûr pour les Clippers. Bam Adebayo, il vient d'avoir le Covid. Zion Williamson, on sait pas trop avec les Pelicans. Fred Van Vliet, il était absent.
J'ai vu Zion Williamson, il me ressemble plus à moi qu'à toi, hein.
Et Tim Hardaway, oui. Tim Hardaway, John Collins, enfin,
la Robert
liste,
Williams.
Elle est longue, ouais. Robert Williams.
Miami, non? Ils sont tranquilles, non?
Bon, comme Adebayo vient d'avoir le Covid.
Après
Butler est fragile aussi.
Les deux équipes qui s'affrontent à l'Est, eux sont complets, je crois. Bucks, Bulls et Lonzo Ball.
Ouais, Lonzo Ball.
Mais Lonzo Ball, c'est de longue date, oui, mais important quand même. Oui,
Milwaukee, Phoenix semble quand même assez épargné par les blessures.
Alors, on va noter donc Dallas, Golden State, ballotage favorable selon vous. On va passer à l'Est avec un Philadelphie, Toronto qui est peut-être le plus déséquilibré. Non, j'ai dit une bêtise.
Moi, j'ai envie de te dire, très attention aux Sixers qui passent pas la trappe, mon petit Pierrot.
D'accord.
Toronto.
Ils sont à 14 victoires sur les 18 derniers matchs.
Question de dynamique. Toronto est l'équipe avec Boston et Dallas la plus chaude du moment. Pascal Siakam est monstrueux. Et Joel Embiid a eu une déclaration l'année dernière en disant, Toronto et Nick Nurse est la seule équipe qui défendent correctement face à moi. Ses stats sont en baisse à Joel Embiid parce qu'ils viennent tripler dès que le ballon arrive poste bas sur Joel Embiid.
Il joue super dur, il défend dur.
Et puis il y a des animaux en défense à Toronto.
Physiquement, c'est solide.
Anunoby et compagnie, gros, c'est costaud. Et
Anunoby est pas blessé là?
Je crois pas, non.
Non. Il a joué sur la
fin. Et Tibulle, ou je sais pas comment on dit.
Tibulle peut pas jouer.
Peut pas jouer là-bas.
Fred Van Vliet n'a pas joué les deux derniers matchs.
Tibulle, il peut jouer que dans le Tibulle sanitaire. Malheureusement, il est sorti de la Tibulle sanitaire, Matisse. Donc il est pas vacciné, il peut pas jouer à Toronto. Non, mais c'est important, Pierrot.
Par contre, Tibulle, non, rien. Ça aurait été grossier. Donc on n'est pas sur une confrontation si déséquilibrée que ça.
Pour moi, c'est la série à suivre sur ce premier tour.
Et il y a un garçon qui joue. Gros sur cette série, c'est James Harden.
Bien sûr.
C'est James Harden parce que c'est lui qui doit permettre à Philly de passer un cap. James Harden, on l'a un peu saucé sur le début quand il arrivait à Philly, il était très bon. J'ai regardé les chiffres sur le dernier mois de compétition. James Harden, il a 35% au tir. Il est même pas à 20 points de moyenne. Et si James Harden, pourquoi tu rigoles
ça me fait rire d'entendre ça.
Il joue, enfin sa réputation. Je sais pas s'il joue sa réputation, mais là, James Harden.
Oui, sa crédibilité.
Sa réputation, elle est quand même sacrément entachée.
Ouais, la réputation, il a fait une croix dessus. Maintenant, il reste la crédibilité, quoi. En gros, non, mais c'est vrai.
Club peut-être,
c'est une bouteille à la mer, c'est surprends-nous James, quoi. Franchement.
Et puis quand je le vois jouer, qu'est-ce qu'il a perdu en vitesse, en explosivité?
C'est Neymar, quoi.
Ouais. Ouais, face à Van Vliet, ça peut être très drôle.
C'est un bon comparatif.
Bon comparatif, Pierrot.
Face à Van Vliet, ça peut être très très drôle, Pierrot, franchement.
Après Van Vliet, il fait une saison.
C'est un monstre en défense.
Oui, non, mais il est là une fois sur deux.
Le problème de Van Vliet,
il est autant à l'infirmerie que sur le parquet, c'est ça que je veux dire.
Le problème de Van Vliet, c'est qu'il y a la Amstel Gold Race aussi, il y a les classiques flandriennes et qu'il peut pas tout faire.
Si, il va vite.
Non, mais sincèrement, c'est pas un joueur fiable sur le plan
physique. Dur, Pierrot.
Mais laisse-moi finir ma phrase.
Rien que le début, je suis d'accord avec Stephen.
Sur le plan de la santé. Le mec, tu sais jamais s'il est là ou s'il est pas là, en fait.
Come on, man! Come on!
Ah, bah, il va être là. On te le dit déjà, il va être là.
D'accord. Ok. Milwaukee-Chicago, déséquilibré.
Ça sent le 4-0.
Ah, ça sent le 4-0 carrément.
Les Bulls, tu sais que les Bulls ont gagné 3 matchs sur 25 sur les équipes du top 5 de chaque conférence. Ils sont catastrophiques quand ils doivent jouer les gros. Et puis c'est un retour en playoff. La saison elle est déjà plus ou moins satisfaisante pour Chicago. Et
Kobe White pourrait revenir, je crois.
Oui, mais après
mais c'est contre, voilà, il manque Lonzo Ball.
Quand tu vas manger du roulé, plein faire Kobe White, je suis pas sûr qu'il non, et puis Milwaukee ça y est, champion en titre, Giannis monstrueux.
Du roulé qui a quand même fait une chose magnifique sur le dernier match de la saison. Ouais, je sais pas si tu as vu Pierrot.
C'est ça ?
Il est rentré il a joué 2 secondes pour pouvoir toucher sa prime.
Ouais, sauf que la prime, il va la donner à son association. Oui,
c'est ça. C'est important. Dans son contrat, au bout de 67 matchs joués saison régulière, t'as $250,000. La franchise a été généreuse, lui a filé. Donc voilà, s'il est filé une association, c'est très bien.
Quand toi, tu viens à RMC, tu fais $250,000 comme ça.
Mais tu les redonnerais surtout. C'est pour ça que c'est plus compliqué.
Surtout dès le 67e jour de travail, je prends. Ouais.
Mais, non, c'est une série pour moi déséquilibrée, parce que Milwaukee est sûr de ses forces. Voilà. Puis, est-ce qu'on peut dire que le CR va battre le taureau, Alex?
Ça peut, hein.
Il va l'embrocher.
Il va l'embrocher, hein, il y a bon coup de bois. Alors, on peut dire un mot des play-in maintenant. Alors, il y a peut-être le match le plus intéressant entre Brooklyn et Cleveland, qui sont deux équipes qui sont sous-classées, c'est-à-dire qui devraient être bien au-dessus, non? Si la saison avait été entre guillemets normale,
sans blessés, Cleveland aurait peut-être fait top 4, sauf que là Jarrett Allen,
ils ont eu des blessés tout le temps.
Jarrett Allen, on a eu la confirmation hier de Shams Charmiak qui a dit que Jarrett Allen n'était pas là pour play-in. Brooklyn a bien fini, moi je vois pas Cleveland gagner à Brooklyn sur un match de play-in.
Tu peux être insider si tu t'appelles John,
ouais, c'est trop facile.
John Blank. Faut avoir un nom de ouf.
Adrian Wojnarowski, Shams Charmiak, Pierre Dorian.
Non, ça passe pas Pierre Dorian, non. Alex Biggerstaff, ça passe.
Alex Biggerstaff, ah, ça passe. J'ai choisi d'être avec vous.
Brooklyn, Cleveland, on laisse peu de chance à Cleveland.
Ouais.
Sans Jarrett Allen.
Quand on voit Kyrie et Kevin Durant là en ce moment, franchement. Et Steph Curry, je pense, sera remis juste à temps pour
le
match.
Il a pas joué le dernier game, ouais. Il était économisé. Maintenant, on parlait des Bucks avant. Les Bucks sont quand même bien bazardés le dernier match. Alors ils ont mis beaucoup de monde au repos. Je les soupçonne d'avoir voulu éviter la deuxième place pour pas jouer Brooklyn au premier tour.
Le perdant de ce match affrontera le vainqueur d'Atlanta-Charlotte pour se retrouver dans la moitié de tableau de Miami, Philadelphie et Toronto. Atlanta, quand même, bonne bien petite fini. Équipe. Charlotte, des hauts et des bas, mais.
C'est tapé sans lire pour Charlotte.
Voilà. Mais ça reste solide, tout ça.
Ouais, Trae Young, il peut faire toujours quelque chose sur un match.
Alors, mais... c'est quand même, je trouve, une saison où il y a plus de densité à l'Est qu'à l'Ouest. Parce que quand tu vois le 9-10 à l'Est, Atlanta-Charlotte contre New Orleans-San Antonio de l'autre côté, c'est quand même plus solide à l'Est.
Oui, même si dans le haut de tableau, il y a beaucoup plus de victoires à l'Ouest que à l'Est.
Comme souvent.
Comme souvent. Maintenant, rappelez-vous, dans la bulle, quand le play-in avait instauré, il y avait un certain gap de match. Si l'équipe 9e ou 10e n'avait pas gagné assez de matchs par rapport à l'équipe 8e ou 7e, ils faisaient pas le play-in. Là, aujourd'hui, ils ont enlevé cette formule. Ce qui fait que tu te retrouves avec les Spurs qui ont gagné 34 ou 35 matchs, qui vont peut-être éventuellement
gagner 45. C'est juste pour passer le temps, San Antonio de New Orleans.
Moi, je pense que les Pels vont passer quand même.
Oui, mais il y aura pas de ces deux équipes-là ont une chance infime d'exister en playoff.
Je sais pas, ou... Pels, après c'est Pels Clippers ou Pels Wolves.
Avec un retour de Zion.
logiquement, à l'Ouest, les 7 et 8 devraient faire les playoffs. Clippers et Timberwolves.
Ouais, et les Clippers favoris, du coup, non, face à Minnesota, non?
Attendu. Hein.
Équilibré.
Bah, sachant qu'ils ont gagné
forme de Paul George, ton nouvel ami.
Ouais, mais ils ont gagné deux fois, déjà, les Clippers, donc pourquoi pas.
Très bien. Alors, justement, on va parler de ceux qui apparaissent comme l'épouvantail de ces playoffs, les Brooklyn Nets.
Nets are 8-point favorites at home against the Cavs on Tuesday night for the right to face the Celtics.
Kevin Durant, no matter who they play in round one, is going to be the best player on the court.
Conversations of Ben Simmons' availability have been swirling.
Can KD and Kyrie get Brooklyn past round one?
T'as entendu là sur le KD and Kyrie, c'est pas ce que tu dis qui est important, c'est comment tu le dis.
Comment tu le dis.
Tu vois, quand elle dit Kyrie, la meuf, elle est.
Superman. Un anglais pour dire Rudy Gobert is the best scorer in the league. Tu vois, c'est pas crédible, mais ça passe. Hein.
Alors les Nets, donc tu disais tout à l'heure, Harden joue sa crédibilité. Les Nets s'en sont presque débarrassés finalement et vont se présenter avec un duo plutôt qu'un big three. Sauf que c'est pas n'importe quel duo quand même, c'est KD et Irving. Irving qui a qui est un joueur très spécial, oui. Mais très 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 fort. Alors, est-ce que ça peut être le
spécial dans les deux sens, parce que vraiment spécial offensivement aussi, c'est incroyable ce qu'il peut proposer.
Ouais, c'est exceptionnel.
Est-ce que ça peut être le facteur X de ces playoffs, la surprise ultime, c'est-à-dire les
génère la crainte,
septième de l'Est qui est champion NBA.
Il génère la crainte. Quand les équipes savent, c'est ce que Stephen abordait tout à l'heure, quand tu penses, tu soupçonnes Milwaukee, qui est quand même champion en titre, de vouloir éviter les Nets, ça veut tout dire. Mm-hmm. Personne n'a envie de les prendre à l'Est, justement, parce que t'as deux monstres, t'as deux des meilleurs joueurs de la Ligue dans la même équipe, qui sont remontés comme des pendules, qui ont eu un temps de jeu très frustrant cette saison à cause des blessures, à cause des règles Covid. T'as des très bons joueurs autour, je pense à des Steph Curry, qui sont des mecs qui peuvent changer la donne sur une série de playoffs. C'est très cohérent, c'est un groupe enfin soudé, c'est ce qu'il a manqué tout au long de la saison. C'est une équipe vraiment que t'as pas envie de jouer, et c'est une équipe avec justement des individualités qui peuvent faire la différence sur ce genre de série ou de match coup près.
Parenthèse, est-ce qu'ils sont soudés parce que Harden est parti ou juste parce qu'ils sont revanchards?
Non, plus revanchard.
Revanchard aussi, et puis le fait.
Non, mais en même temps, peu importe. Leur volonté, c'est de rattraper le coup, quoi qu'il arrive, qu'il soit revanchard ou parce que Harden est parti.
Rien n'est perdu pour eux.
Mais même pour le coach, c'est important. C'est important pour lui par rapport à l'équipe et dirigeante aussi. Donc c'est très très important.
Après ils sont septième parce que KD a loupé trop de matchs sur blessure. Si les deux avaient joué en
3 mois d'absence,
ils seraient pas septième. Alors cette équipe, elle fait peur, peut-être. Moi, je trouve des lacunes.
Quelles lacunes?
Défensif, déjà. C'est le 20e à l'heure défensif. Et on sait que Steve Nash, il a été éduqué dans un basket à Phoenix où c'était tout pour l'attaque, où il fallait mettre un panier de plus que les autres. Et sa culture, en tant que coach, elle n'a pas vraiment évolué pour moi. Et je trouve ça problématique. Ensuite, ils sont vieillissants, le banc est vieillissant, Patty Mills, il m'a l'air un peu sur la jante, Goran Dragic aussi, là Marcus Aldridge, il est quasiment sorti de la rotation, c'est Claxton qui joue en backup de Drummond. Et puis malgré tout, t'as deux mutants, certes, mais est-ce que deux mutants, c'est suffisant et ça va suffire pour aller au bout? Et j'ai du mal à y croire.
Et donc les autres là, les autres titulaires là, Kessler, Edwards, Bruce Brown, c'est très en dessous.
C'est des bons soldats, mais c'est pas assez.
Ouais, mais est-ce que t'as besoin d'autre chose? Alors effectivement, défensivement, je te rejoins complètement, mais offensivement, est-ce que t'as besoin de quelqu'un d'autre? T'as les deux là, t'as deux solutions incroyables, ils vont trouver ce qu'il faut faire.
Et parfois, t'as besoin d'un petit troisième ou quatrième larron capable de mettre de trois.
Dédé Drummond, non, il peut pas apporter un peu de points.
Dédé Drummond, il peut mettre des points. Après, il m'a plein de pouces, hein, parfois, Dédé. Hein. Ouais. Il va prendre des
rebonds. Mais c'est pas grave, il est pas trop loin du panier, normalement.
Il est un peu inquiétant, parfois. Hein. Sur le QI basket, parfois,
potentiellement, ce qui serait intéressant, c'est s'ils affrontent vraiment Boston en premier tour. Parce que là, t'as une défense de chien de garde avec Marcus Smart face, justement, à des garçons qui sont plus habitués à mettre 145 points en saison régulière sur des matchs.
Opposition
sauf qu'en playoff, tous les points baissent. Ça, c'est chaque année, tous les points baissent. Donc,
le problème pour Boston,
s'ils
premier tour face à Boston.
Boston, c'est une équipe casse-pied, hein, parce que Kevin Durant va devoir défendre sur Tatum, il va pas pouvoir s'économiser.
Quel duel.
Marcus Smart va se mettre en mission sur Kyrie Irving. À l'intérieur, ils ont les Daniel Theis, des Al Horford qui sont là, qui sont solides et qui défendent bien. Notre ami Jaylen Brown qui a un formidable score. C'est pas cadeau cette match-up.
C'est juste la saison dernière, mais je pense pas que ça va jouer. Brooklyn avait presque sweepé Boston 4-1 hein, sur le premier tour. Il y a peut-être un petit en un an.
Mais en 6 mois, enfin au début de l'année 2022. Là.
La question est, n'hurlez pas, je vous en prie, mais Jason Tatum et Jaylen Brown peuvent-ils être entre guillemets ridicules face aux deux autres?
Non, je crois pas.
Ils ont passé un cap là, de toute façon.
Quelle est la différence d'écart la différence de niveau entre ces deux duos?
La différence de...
Parce que Tatum, c'est très fort.
Tatum, il est potentiel. Et... S'il avait commencé la saison en 2021, Tatum, il était potentiel MVP. Ouais.
Donc, voilà. Donc, ils ont peut-être pas trop à rougir de la comparaison.
Non. Jaylen Brown est un formidable scoreur, défenseur.
Et ils ont de loin un meilleur public.
Oui.
ça fait la diff aussi.
Pas cadeau d'aller jouer à Boston.
Tu penses que ça fait la diff?
En playoff.
Parce que les Nets, c'est pourri.
C'est pas au même niveau.
C'est nouveau. C'est neuf, hein.
Boston, c'est 50-75 ans d'histoire de playoff.
Et alors, malgré tout, malgré les réserves de Steve, est-ce que ça peut éventuellement aller au bout? Parce que, souvenez-vous, certes, il y avait Harden, mais ce qu'on disait en début de saison, on les présentait comme les favoris. Enfin, si l'alchimie prenait, bien entendu, mais ils étaient parmi les 2-3 favoris sans problème. Est-ce que ça peut aller au bout, malgré les réticences de Steph?
Pour moi, le révélateur, je suis d'accord avec Steph, c'est Boston. Si tu passes Boston,
après,
tu peux aller très très loin, parce que personne ne défendra aussi dur et sera aussi complémentaire.
Si tu passes Boston, t'as réussi ta saison.
Ouais,
au final,
c'est clair. Donc pour moi, c'est le vrai révélateur, mais ça va être compliqué.
Après, pour Kevin Durant, dire que t'as réussi ta saison en passant
le
premier tour, non. Mais en fait, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des
choses. À deux et pas à trois.
Voilà, c'est ça.
Je vois trois équipes capables de taper Brooklyn, Boston, Milwaukee, Miami. Attention.
Ah oui, mais donc ça leur fait un parcours difficile quand même.
C'est difficile, hein,
ils peuvent prendre les trois d'affilée, quoi.
Ah oui.
Miami, c'est pas cadeau, hein, ça c'est
Miami,
sûr.
C'est très fort.
Par contre, c'est en place aussi.
Par contre, sur Philadelphie, si Philadelphie passe et va en finale de conférence, tu les penses favoris face à Brooklyn?
Je sais pas, parce que James Harden, il a pas laissé des bons souvenirs à Brooklyn. En tout cas, j'aimerais.
Tu les as pas cités dans les trois capables de battre Brooklyn.
Non, pardon.
Oui, je t'ai posé la question à l'envers. Si tu avais Philadelphie, Brooklyn, tu mets Brooklyn favori.
Ouais. Par contre, ça serait une match-up très sympa parce que vu cette saison, comment ça s'est chambré à droite à gauche, Embiid, Kevin Durant, j'aimerais bien voir cette opposition.
Ben Simmons qui offre la place en finale.
sur un tir à trois points.
Ça serait trop,
main droite,
trop dur. Juste avant de passer à la partie historique, qui est votre favori là sur le tableau que vous avez et qui va être champion?
Je bouge pas, Phoenix comme la semaine dernière.
Phoenix.
Et moi, je bouge un peu. Je rejoins Alex, Phoenix aussi.
Ah, bien. Tu t'es rallié après le premier tour.
Je me suis rallié parce que c'est complémentaire.
Est-ce que t'as voté
Il y a Jamal McGee. Non, mais il y a surtout Jamal McGee qui est un vrai trèfle à quatre feuilles. Ouais. Donc, je me dis que
c'est le contraire. En fait, il a voté avec son cœur au premier tour et vote de raison au deuxième tour. Toi, Stephen?
Mais sur les questions, est-ce qu'il y a
pas les Mavs, hein?
Non, pas les Mavs, mais souvent il y a des gens qui disent c'est des playoffs ouverts. Quand tu vois que le Phoenix qui a gagné 64 matchs cette saison, que c'est la saison la plus prolifique depuis celle des Warriors, qu'ils ont une équipe monstrueuse avec un banc et des qualités défensives hors normes, pour moi Phoenix est le grand favori à l'entame des playoffs.
Devant Milwaukee.
Ouais.
Ok, très bien. Alors c'est l'heure de la partie historique, messieurs, nous allons déterminer qui a réalisé dans l'histoire de la NBA la plus grande série de playoffs.
Ball away, Jordan got it. Here's Jordan. Over Hawkins on a superstar battle. Barkley and Jordan, six apiece. Michael dips in it. Michael in front court. Yes.
James, 2 seconds, 1 second for the win. LeBron James delivers.
It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?
Tous les grands joueurs ont dominé une ou plusieurs saisons de playoffs. Quelle est selon vous la masterclass, la campagne parfaite dans l'histoire de la NBA? Fred.
Oui,
Fred Weiss.
C'est moi.
C'est toi qui commence.
Je vais vous parler d'un. Évidemment. Et je vous parle d'un temps surtout où les pivots étaient dominants. Vous savez, où on jouait au basket, le ballon arrivait à l'intérieur et il se passait des choses. Dans les années 90. Donc je vais parler des playoffs 95. Avec bien sûr Hakeem the Dream, Olajuwon. Alors Hakeem the Dream, il joue le premier tour contre les Jazz et il va nous faire un petit 35 points, 8,6 rebonds, 4 passes sur ce premier tour. Mais c'est un tour de chauffe, encore une fois, chez les Jazz, il n'y a pas vraiment de grand pivot pour l'arrêter, donc c'est assez simple, on va dire. Ensuite,
formalité,
voilà, il se dit allez, je vais faire quelques points histoire de marquer des points, mais c'est pas très compliqué. Ensuite, il tombe contre Houston Suns, d'accord? Donc, encore une fois, pas vraiment de pivot, mais bon, c'est une belle équipe. Hein. Kevin Johnson, Dan Meyerley, Charles Barkley, c'est quand même une belle équipe en face, donc ils sont obligés d'aller en 7 matchs. Là, il descend un peu ses standards, il est à 29,6 points, 9 rebonds, 3,7 assists.
Ouais.
Vraiment, il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas bien du tout, il se dit, c'est un peu compliqué, 7 matchs. Et finalement, il doit affronter en finale de conf, San Antonio, avec, dans ses rangs, le MVP en titre, MVP de la saison régulière, David Robinson. Et là, il se dit, je vais le concasser. David Robinson. Donc ils vont jouer 6 matchs.
En plus, il l'annonce, je crois.
Oui, il l'annonce. Je pense qu'il l'a pris de façon personnelle, comme dirait Michael Jordan. Et il se dit, moi j'aurais dû être MVP, et je vais lui prouver, tout simplement. Donc ils vont jouer 6 matchs. David Robinson va faire presque 24 points, un peu plus de 11 rebonds, 3 passes à peu près. Et Hakeem dit, ouais, c'est pas mal. Mais moi, je vais faire mieux. Donc sur ça, il va faire 35,3 points à 56%, 12,5 rebonds, 5 passes et 4,2 contre. D'accord. Donc là, il a quand même affronté le MVP en titre, etc. On se dit, c'est quand même pas mal, quoi. Et là, il tombe contre Orlando, du Shaq. Troisième année du Shaq à Orlando. Et finale, tout simplement. Et ils vont les concasser encore une fois. 4-0 avec un petit match, enfin des petits matchs très sympathiques hein, pour la Juwan. 33 points, 11,5 rebonds, 5,5 passes. Plutôt pas mal. Ce qui fera dire à Shaq, je trouvais que c'était un gars sympa. Vraiment très sympa. C'était en plus, il avait le même agent que moi. Mais à partir de là, je me suis dit, la prochaine fois que j'irai en finale, je serai encore plus dominant parce que sinon, je pourrais pas gagner. Les fois où il allait en finale après, il a été MVP. Donc, il a réussi à défoncer le MVP, à changer Shaq, à transformer en monstre en finale. je pense qu'on peut dire qu'il a, il a été.
Alors pour le coup, vu le thème, oui, de ce, cette partie historique, ça, ton choix correspond parfaitement à la discussion. C'est-à-dire de quelqu'un qui a martyrisé à peu près tout le monde du premier au dernier match de play-off, avec en plus une histoire qui est restée comme dans la légende de la NBA, donc son, son clash avec Robinson. Très bien, attention, il y a, des, il y a d'autres clients, Stephen.
Écoute, comment ne pas parler de Michael Jordan quand on parle de play-off?
Alors après, il y a six, il y a six campagnes. Oui.
Hein. Moi, je prends la
laquelle,
campagne.
Laquelle est la plus incroyable?
Moi, je prends la campagne 92 de Jordan. La pression.
Un petit rappel.
Petit rappel
historique 92.
91, premier titre acquis face aux Lakers. Donc la pression est, est retombée. Il n'y a plus la pression du premier titre. 92. Jordan, Pippen, ils affrontent Portland en finale. De Clyde Drexler. Les stats de Jordan sur 22 matchs de playoff, 34,5 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et surtout des moments iconiques, Pierrot, des moments d'histoire comme ce premier tour face à Miami où les Bulls débarquent en Floride en menant 2-0. En Floride, belle météo, Jordan a pris son petit Bermuda, son petit sac de golf et ses petites chaussures à crampons. Il fait 36 trous de parcours la veille du match, du troisième match. Jordan arrive sur le parquet, premier carton, il met pas le moindre point. Jordan, Steve Smith et Glenn Rice, le joueur du Heat à l'époque, le regardent d'un air de dire « Ah ouais, t'es comme ça, tu viens chez nous, tu joues au golf, tu nous respectes pas, tu nous prends de haut, bravo ». Un regard peut changer ta destinée, Pierrot.
Surtout quand tu regardes de travers Michael Jordan.
Ce regard, Jordan l'a pas apprécié. Il finira la rencontre à 56 points en trois quarts temps pour sweeper Miami. Le match 7 des demi-finales de play-off contre l'ennemi new-yorkais, les Knicks. On attendait un match à suspense que Nenny. Jordan a détruit les Knicks. 42 points, 6 rebonds, 4 passes dans un match 7 avec une victoire de plus de 30 points. Et puis vient cette finale de Portland, le match 1, le Shrug Game face à Clyde Drexler. Clyde Drexler que les médias avaient essayé de monter comme véritable opposant à Jordan.
L'erreur fatale.
L'erreur fatale.
Affronte Jordan.
Exactement. Et Michael Jordan n'a pas apprécié. Match 1, Jordan va battre le record de points sur une mi-temps dans une finale NBA avec 35 et surtout 6 tirs à 3 points en première mi-temps avec cette image iconique de Jordan, les deux mains sur le côté, en disant je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est exceptionnel. Voilà une victoire 4-2 et une deuxième bague de champion pour MJ.
Donc 92, la perfection. Et toi, Alex?
Bah, on descend d'une année. On descend d'une année, c'est le premier titre tout simplement de Michael Jordan, 1991. On rappelle le contexte, il s'est pris d'immenses claques par le passé avec les Bulls. Il y a les Pistons qui à chaque fois cherchent à lui faire péter les plombs. Il y a une forte concurrence à l'Est. C'est donc sa première finale NBA. Il a 28 ans, il est en pleine force de l'âge. On rappelle juste les stats en saison régulière. Il est à plus de 31 points de moyenne, mais aussi 6 rebonds et plus de 5 passes décisives et surtout près de 3 interceptions en moyenne par match, parce que c'est pas juste un Jordan scoreur quand il est en pleine force de l'âge, c'est un énorme défenseur aussi. Et sur ces sur cette campagne de 91, tout va se passer tranquillement. Là aussi, c'est comment un garçon qui n'a pas encore gagné peut montrer une telle dominance avec autant de relâchement. Il est serein. Premier tour, démantèlement en règle des New York Knicks, 3-0. Jordan se chauffe tranquillement, il souffle dans ses mains, 29 points de moyenne sur la série. Puis arrive Philadelphie. Bah 4-1, tranquille, là aussi énorme domination, Jordan commence à monter crescendo, plus de 33 points de moyenne sur la série avec quelques pointes. Alors oui, il n'y a pas des scores de dingue comme l'a dit Stephen comme en 92, mais il s'autorise de temps en temps quelques pointes, mais c'est surtout un garçon qui implique tout le monde, parce que encore une fois l'histoire de Jordan sur la première année c'est de pouvoir faire jouer tout le monde afin de gagner un titre. Donc il fait une pointe à 46 points dans le troisième match et 38 points et 19 rebonds. 38 points, 19 rebonds de Jordan l'arrière sur le match 5, victoire 195 face à Philly. Bref, on passe à la suite. C'est peut-être là où tout le monde se dit « Ah, il va y avoir opposition » puisqu'en finale de conférence, ce sont les Pistons de Détroit qui arrivent avec Isaiah Thomas, avec Bill Laimbeer. Bref, des mecs qui sont amusés à mettre des coups à Michael Jordan tout au long de son début de carrière. Et là, Michael Jordan, il décide encore une fois de hausser le ton et surtout, il passe à plus de 53% de réussite au tir. C'est pas un pivot Michael Jordan, c'est un arrière encore une fois. C'est absolument dingue. 30 points de moyenne là aussi. Et Chicago passe un coup de balai sur les Pistons qui avaient fini troisième à l'Est. Pour la première fois, Jordan se sent mais invincible. Il finira meilleur passeur en plus des Bulls sur 3 des 4 matchs de la finale de conférence. Donc c'est un Jordan qui est au sommet de son art physiquement, au sommet de son art en attaque et au sommet de son art aussi dans l'implication.
Toi,
de
c'est sa meilleure saison. C'est sa meilleure saison pour toi, sans parler de la campagne de play-off.
Pour moi, c'est sa meilleure saison parce qu'il est en pleine force de l'âge et il nous montre sur tous les aspects du terrain, en fait, qu'il est, c'est le meilleur joueur de la planète.
Ça y est, c'est parti.
On rappelle
et
que
ça s'arrêtera plus, quoi.
Détroit avait battu les Bulls 2 fois en saison régulière, hein, cette année-là. Impressionnant, point d'interrogation, bah non, puisque Jordan s'était réservé, en fait, pour la finale face aux Lakers de Magic Johnson. Ils perdent le match 1 de 2 petits points. Il sort 36 points, 12 passes décisives. Il enchaîne. Match 2, 33 points, 13 passes décisives. Match 3 en prolongation, 29 points, 9 passes décisives. Match 4 des finales, prolongation, 28 points, 13 passes décisives. Et il sort finalement les Lakers 4-1, 30 points et 10 passes décisives sur le match 5.
Correct.
Il termine les finals contre le Lakers de Magic à plus de 31 points de moyenne. Plus de 11 passes de moyenne Michael Jordan et plus de 6 rebonds, 4 double-double en 5 matchs. Et j'oublie pas défensivement, sur les finales, Jordan finit avec 14 interceptions en 5 matchs cette série. Il est sur tous les côtés du terrain, c'est pas juste offensif. Ce seront les playoffs les plus dominants de l'histoire des Bulls, peu importe les 5 titres qui ont suivi derrière. Bilan de 15 victoires et 2 défaites. Et dans les 2 défaites, Pierrot, cumule de 4 points en tout de retard sur les adversaires. Ils ont perdu à chaque fois de 2 points face aux adversaires et à chaque fois des shoots dans les dernières secondes. Jordan éclate tout, Jordan fait que ses coéquipiers éclatent tout, il est au sommet de son art et il va derrière
enchaîner. C'est ça qui règle le problème de notre débat.
Je vous présente Prime
bémol.
Jojo.
Petit bémol en 91, moi je regardais les matchs en
quel
direct.
Bémol
Bémol, c'est que j'ai vu sur le match 1, sur le match 3, il a loupé 2 layups à l'échauffement.
Ah ouais.
Et je suis pas sûr que...
En plus, ça a été filmé.
Oui, exactement.
Ouais, c'est ça le problème. Non, mais bon, c'est vrai, quand tu perds 2 matchs dans une campagne de play-off, on peut parler de domination.
Dernière chose, Pierrot, tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure, en play-off, on baisse forcément ses statistiques. Bah, Jordan, lui, a augmenté ses statistiques de saison régulière. Il est passé de 31 points et 6 rebonds de moyenne, plus 5 passes de moyenne. En play-off, à 31 points, là aussi, stagnant.
Alors,
mais 6 rebonds et 8, passes décisives. Voilà comment faire gagner.
Alors, évidemment que, bon, je me doutais qu'on parlerait beaucoup de Jordan dans cette partie, mais récemment, il y a eu des bijoux quand même. Je pense à Kawhi Leonard, par
LeBron,
exemple.
LeBron, Kawhi.
LeBron, on en a fait un des belles campagnes.
Giannis Antetokounmpo.
Tim Duncan.
Duncan.
2003, c'est incroyable.
2011 aussi, il y en a un qui a fait une très grosse, belle campagne.
Belle campagne, on va dire.
Magnifique campagne.
Très belle campagne.
Ouais. Magnifique campagne.
Et sur les plus récentes, c'est quel est le plus impressionnant, Giannis ou Kawhi Leonard ou
Kawhi avec Toronto,
c'est LeBron James.
Parce qu'il y a ce game winner du match 7 face à Philly. Il arrive dans un nouveau club à Toronto. Kawhi est monstrueux.
Monstrueux.
Ouais.
Allez, c'est l'heure de jouer. On va défier Stephen.
On va tous se défier.
Ah.
Quel magazine, quel papier ?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi ?
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Mon premier est une écurie de Formule 1.
Ah, il y aura une charade.
Est un prénom féminin, prénom d'une candidate à la mairie de Paris. Mon troisième, on pourrait dire que c'est le contraire du côté obscur en version originale. Tout est le meilleur contreur de la NBA.
Hassan Whiteside.
Hassan Whiteside. J'ai rien compris à ma charade. C'est si, une charade.
Écurie de Formule 1.
Oui.
Candidate à la mairie.
Non, mais en fait, le problème, c'est que
si tu écoutes
et que c'était trop dans le, comment dire, dans l'énoncé de la question, c'est incompréhensible.
Du coup, on l'a raccourci.
Il faut prendre énormément de recul pour la comprendre.
Jingle a raccourci.
Il y aura une charade tout de suite.
On a perdu mon Kylo Quinn, par contre.
C'est dommage.
C'est normal, il est rentré chez lui.
On l'a perdu vraiment, en plus.
Alors, je dis qu'on va défier Stephen, puisque la semaine dernière, tu revenais de LA, n'est-ce pas? Avec le décalage horaire, pas trop suivi l'actualité, tu les as déboîtés. Donc, messieurs, l'orgueil. Ok, Fred, l'orgueil.
Mais nous, on faisait rien du tout pendant la semaine de vacances de Steven. Nous, on n'était pas occupés du tout.
Sur la tronche.
Il est allé sur site pour s'imprégner des infos.
Voilà, c'est ça.
Oh là là.
Spécial fin de saison. Beaucoup de questions d'actualité. Quelques-unes historiques.
Ok.
Première question. Je vous donne
c'est chaud, là.
Une citation.
Ouais, t'as perdu apparemment ta citation, non?
Non, j'ai pas perdu.
Je la donne, mais je me rappelle plus.
J'ai juste un petit problème, c'est que j'ai imprimé en...
Oh, qu'est-ce qu'il travaille trop de fiches.
J'ai peur que vous voyez les
règles. On fait pas ça, nous.
Moi, je vois rien.
Alors, donc, première citation. Je vous cite donc quelqu'un qui a dit ceci. Il a joué une sorte de scrimmage en contrôle.
Steve Nash.
Voilà où il en est en termes de progression. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de mise à jour le concernant. Voilà où il en est. Toujours pas.
Kevin Durant.
Est-ce que je m'attends à ce qu'il joue?
Okay.
Bien sûr que oui. Mais
Steve Kerr.
Ça reste mon avis.
Je ne pense pas qu'il y ait quoi Jason que Kidd. Ce soit qui puisse Jason l'empêcher Kidd, de le faire.
Luka Doncic.
Ah, c'est une incertitude sur une participation au playoff, mais ça, il ne s'agit pas de Luka Doncic.
C'est Brooklyn, Ben Simmons, non?
Il ne s'agit pas de
le
Ben Simmons.
Le coach des Pels sur Zion.
Exactement, mais comment non. s'appelle-t-il?
Le coach, quoi? Ah, c'est Willie Green.
C'est Willie Green.
Ah, oui.
J'avais plus le nom.
Assist by Biggest Star.
La passe D, quoi.
Assist the opponent, Steve.
Merci.
Qu'est-ce que t'as fait, Alex?
Trou de mémoire.
Toi, là, tu cherches, enfin. Tu l'avais.
Par contre, il nous vendu.
Je crois que t'as même validé.
Par contre, il nous pipote en nous disant que Zion, il va jouer.
Bah, ah bon? T'as vu comme il est physiquement, là?
Il nous pipote.
C'est impossible?
Bah, non.
Pourquoi il dirait ça si c'était
ça coûterait trop cher en parquet s'il jouait
ça remplit la salle.
Coup de bluff pour faire peur
Donc Willie Green, jamais on n'a jamais parlé de lui cette saison, donc au moins son nom aura été prononcé une fois. Même Alex a pas réussi à le sortir. Alors les Pelicans, donc ils jouent un play-in face à San Antonio. La dernière fois qu'ils ont atteint les playoffs, c'était en 2018.
Anthony Davis.
Quelle équipe avait-il sweepé au premier tour?
San Antonio.
Non. Pas San Antonio.
En 2018,
une belle équipe, hein, une belle équipe prometteuse avec des talents offensifs incroyables.
Les Suns?
Non.
Denver?
Non.
Bah, Portland?
Portland, oui, absolument, monsieur.
Ah oui.
Fred Veil.
Là, on est sur du pif, hein, j'ai l'impression.
Ah, bah, évidemment.
Ah, bien sûr.
Non, j'ai dit directement.
Bien sûr. Je vous donne un troisième point sur les Pelicans. Aux enchères.
Pourquoi tu t'es chauffé sur les Pelicans?
Ouais, pourquoi les Pelicans?
Bon, on n'en parle jamais. Puis là, ils vont faire un match et ils vont disparaître. Donc, c'est le moment ou jamais. Et puis, je voulais dire juste un mot quand même de Zion Williamson. Être sûr qu'on le reverra pas cette saison. A priori, le coach.
Si, on reverra. Au McDo, peut-être, mais.
Voilà, au McDo.
Willie Green!
cette fameuse campagne de 2018. Alors, on va faire des enchères. Il n'y a qu'un seul point à prendre.
C'est quoi, 2018?
Ouais, il faut me donner. Le 5 majeur. C'est Alex.
C'est vert, gros.
Le 5 majeur en play-off, et je vous donne tout de suite une indication, parce que.
Marcus Cousins est blessé.
Exactement.
Oui.
Voilà. Donc, Alex, c'est toi qui as la main puisque t'as 0 points. Combien de joueurs tu me donnes? Et franchement, vous pouvez trouver les 5. En tout cas, il y en a 4 que vous pouvez trouver.
T'en donnes 3.
T'en donnes 3. Fred, est-ce que tu fais mieux?
Pas mieux.
Stephen, est-ce que tu vas au-dessus des 3?
Bah, vas-y.
Non, j'y vais pas.
Ouais. T'as pas? Alors, vas-y.
J'en ai pas trois.
Je le savais. Il a voulu bluffer.
Est-ce que je l'aide ou pas? Non.
Drôle idée.
Oui. Drôle idée, c'est bon.
Ok.
Ah, deuxième, il est facile.
Bah, quand même.
Bah, je te jure, cette équipe m'a pas marqué.
Ah!
Il y en a un, quand même.
Un qui a fait une saison moisie, qui est même pas en play-in.
Bah, Anthony Davis.
Voilà. Bah, oui. Et là, un troisième à trouver.
Ah, donc t'en avais même pas deux, en fait.
Il avait Anthony Davis, bien sûr.
Non, j'en avais un.
Oui,
il avait pas Anthony Davis,
non?
Bah, j'ai répondu vite pour essayer d'avoir le...
Donc,
attends.
T'as pas les autres?
Alors, attends.
Réfléchis.
Attends.
Je te donne pas d'indices, parce que c'est trop facile. Si je te donne des indices. Ou alors, je te donne...
Ah, il n'y a pas Julius Randle?
Non, il est dans le roster, mais il n'est pas titu. Alors, je peux te donner un indice sur le plus improbable à trouver.
Est-ce qu'il n'y a pas un meneur expérimenté, Pierrot?
Il y a un meneur expérimenté, ouais, enfin expérimenté, oui, je suppose, ouais. Bon, en tout cas, oui.
Ouais.
Il y a aussi un joueur qui a été coupé par sa franchise cette année. Une franchise.
J'ai envie de te dire Rajon Rondo, Pierrot.
Non, il n'y a pas Rajon Rondo.
Il a été coupé par sa franchise cette année.
Une franchise affreuse, hein, qui a fait une saison dégueulasse.
Houston.
Le Magic.
Il a été coupé par Magic.
Etwan Moore.
Hein?
Étoile Moore.
Et alors les deux autres.
Love Amour.
Les deux autres vous pouvez trouver. Il y a Elfrid Payton.
Ouais.
Et.
Pas cadeau.
Et Nikola Mirotic.
Ah Mirotic. Ouais.
Et donc l'indice des Marcus Cousins pouvait vous aider.
Question très dure hein, quand même.
Question très dure, mais ça va faire un demi point pour Steph et Fred qui sont à 1,5 chacun. Hein.
Franchement, ça doit être l'une des équipes qui m'a le moins marqué de ma vie. Hein.
Bah c'est bien, on révise un peu.
Merci Pierrot, merci.
Il n'y avait pas Axel Toupane dans le roster, non?
Je ne crois pas. Sinon, je vous aurais demandé quel est le français de cette saison, ça aurait fait un point de plus. Qui a déclaré, je ne sais pas pourquoi, alors attention, on est toujours sur la même thématique, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il sera présent. Connaissant le compétiteur qu'il est,
Steve Nash,
je pense qu'il sera prêt. Ce n'est pas Steve Nash. Ce n'est pas Jason Kidd.
Steve Kerr, il a dit.
Parce que c'est pas un coach, en fait, c'est un joueur.
Spencer Dinwiddie.
Et il en se rapproche.
Jalen Brunson.
simultané.
Ouais.
Un demi-point chacun. Allez, ça fait 2 points pour Steph, 1 demi pour Alex. Alex, si tu restes à 1 demi, c'est une humiliation pire que 0. Hein. Juste une question, est-ce qu'ils ont fait une bêtise, les Mavs, en le faisant jouer le dernier match?
En fait, il y avait la possibilité d'être troisième si Golden State perdait et que Dallas gagnait, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils jouent.
Ils jouent avant? C'est ça? Au moment où ils jouent, ils ont encore une chance?
Ouais.
D'accord. Charade. Alors, charade, attention. Charade en deux temps.
C'est de la viande, ça. Charade.
Charade en deux
charade,
temps.
Charade, Cham Charade.
C'est-à-dire que je vais vous faire écouter une interview. Vous n'êtes pas obligé de me donner la réponse parce que c'est simplement un morceau de la charade. Hein.
Ah, l'interview, c'est un morceau de la charade.
Voilà. Bon, ok.
C'est complexe.
Attends, alors, je comprends pas comment l'interview peut être un morceau de la charade.
Là, tu vas comprendre. C'est très facile. C'est hyper facile pour le coup. Mon premier est le prénom de la personne qui parle.
Ah, ok.
Just wow. First of all, I was really, like, it was really a blessing to be here, to hear my name, for, okay. to play for the New York Knicks. New York, I think, is just, like, a city who lives,
c'est bon,
like,
voilà.
a lot of enthusiasts,
Près de la
a lot of fans in New
et
York,
Alex Doute.
They all live around sports and around the Knicks.
Okay. Mon deuxième se dit pour faire silence dans une assemblée, et mon tout
Frank Vogel.
Vient de se faire virer.
C'était Frank Ntilikina qui parlait.
Exactement, c'était Frank Ntilikina le jour de sa draft à New York. Frank Vogel, c'est dur ou pas de virer un coach après une saison catable et qui est titré
il a fait des belles choses avec
Non, ouais. C'est comment c'est passé, c'est que apparemment il a appris partout sur Twitter ouais. pendant qu'il jouait.
Encore un insider gros.
Ouais, encore un insider qui a sorti l'info mais
dès que le dernier match
Ramona Shelburne.
Écoute, on se rappellera de lui comme un coach des Lakers qui a gagné un titre parce qu'il y a un paquet de coachs qui sont
il y a un modèle de défense qu'il a mis en place.
Voilà, pas un peu moins quand même.
Maintenant pour les Lakers,
au début quand ils sont champions,
je suis pas sûr que ça suffise le limogeage de Frank Vogel, il y a d'autres choses à faire donc voilà, écoute, il paye la saison.
Les Lakers fans espèrent énormément un certain Nick Nurse pour le remplacer.
Très bien. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine question. J'ai encore pas mal, j'en ai encore dans ma besace. J'en ai 3, donc si vous voulez battre Stephen, c'est maintenant ou jamais, messieurs. Je vous donne une liste de joueurs. Vous allez me donner le point commun. Exactement. Dwight Powell.
Pourcentage de réussite à 2
Stanford.
Points.
Kevon Looney.
Ceux qui ont les meilleurs pourcentages de réussite à 2 points.
Pac-12.
Franz Wagner. Je m'arrête pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne piste. Hein. Denis Avidja.
Ce sont ceux qui ont joué 82 matchs cette saison.
Excellente réponse de Stephen Brown. Il y avait également Sadiq Bey, Buddy Hield et Mikal Bridges.
Il y a
très peu qui ont joué.
Avec le Covid, les protocoles Covid, c'est rare d'avoir...
Les 82 matchs, voilà. Alors, une citation très très longue, je vous en donne quelques morceaux. Vous allez finir par trouver, je l'espère. Qui a déclaré récemment « Jamais je ne discréditerai les intérieurs. » Mais... Ils gagnent ce trophée depuis longtemps et font un énorme boulot. Mais
Marcus Smart.
Le nombre de fois où un intérieur a été élu plutôt qu'un arrière est tout simplement invraisemblable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est difficile de défendre sur les meilleurs extérieurs de la Ligue sans pouvoir vraiment les toucher, puisqu'ils ont souvent les coups de sifflet avec eux.
Marcus Smart, non?
Non.
Van Vliet.
C'est quelqu'un qui...
Mikal Bridges.
Mikal Bridges. Qui revendique... Ouais. Le titre de meilleur défenseur de l'année, mais qui ne sera pas choisi, a priori.
C'est très indécis, le défenseur de l'année.
Ouais, mais c'est normal, c'est un big man.
Est-ce qu'il a raison?
Le seul arrière.
Moi, je pense que c'est normal.
Que le seul meneur, c'est Gary Payton, dans l'histoire.
Ses arguments sont bons.
Non, ses arguments sont pas bons, parce que s'il n'y a pas de big man derrière toi, tu peux mettre la pression que tu veux. Dès qu'il passe, le mec, il va aller mettre un layup.
Ouais, mais ça peut.
Donc, le big mec, il est le dernier rempart.
C'est
plus important.
Ça peut le problème que le ballon d'or, Pierrot. Les défenseurs qui ont été du ballon d'or, il y en a très peu. C'est souvent des attaquants et des joueurs.
Il dit, c'est un manque de respect,
Cannavaro.
J'ai une dernière question, donc, qui fera pas la diff, mais qui est importante, il faut la faire. D'accord. Quelle performance qui n'avait été réalisée jusqu'ici qu'une fois dans l'histoire de la NBA a été égalée cette saison?
Il y a pas d'indice. C'est juste ça.
Bon. Ouais. Si, il y a des indices. Il y a des indices, ça date d'il y a presque un demi-siècle.
Nikola Jokic, 2000 points, 1000 rebonds, 500 passes. Hein.
Saison 72-73, une performance offensive exceptionnelle.
100% au tir ?
Non, c'est pas ça. Il s'agit pas de ça, il s'agit d'un... Allez.
Quadruple-double ?
Non. Alors, si je vais vous donner...
Une performance offensive, donc c'est le nombre de points marqués.
Le nombre de rebonds offensifs.
Tu te rapproches, Fred.
Non, le tir à 3 points inscrit sur une rencontre.
Le précédent, en saison 72-73, est l'œuvre du joueur de New York, Nate Archibald.
Le plus de shoot à 2 points.
C'est Jamorant, le meneur qui a le meilleur pourcentage dans la raquette.
Non, c'est pas ça.
Oh putain, j'ai vraiment trouvé que c'était ça.
C'est pas ça, vous l'avez pas vu passer, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est une performance incroyable.
Le nombre de paniers avec la planche.
Non, c'est un joueur, un joueur magnifique, mais dans une franchise qui fait une saison quand même moyenne. Hein. Qui en paye
un fort joueur qui fait une saison moyenne.
Non, un très fort joueur qui fait une très grande saison parce que cette stat, c'est que la deuxième fois dans 75 ans d'histoire.
C'est Jim McCollum sur le nombre de tirs de jumper.
Mais
de
dans
jumper.
Une franchise qui a un peu de mal.
De jump shoot sur des tirs à deux points à mi-distance. Le nombre de tirs à deux points. Non.
En fait, Fred, tu y étais presque avec le
pourcentage à deux, le nombre de
shoots. Non, le nombre de
le nombre de points marqués.
Le nombre de points marqués
dans la raquette.
Dans le quatrième quart.
Non, il faut ajouter une autre stat à celle-ci.
Le nombre de points marqués. Ouais.
Dans la dernière minute?
Non, bon, je vais vous le dire, hein. C'est tout simplement, en fait, c'est un cumul de stats.
Ah ouais.
C'est un joueur qui est en tête dans deux catégories statistiques à la fin de la saison.
Après une interception?
Pas du tout.
Après rebond offensif?
Donc, Trae Young est seulement le deuxième joueur à être en tête du nombre de points marqués et du nombre de passes décisives délivrées dans une saison régulière de NBA.
C'est pas lui le meilleur score de la ligue. Il peut pas être en tête le meilleur nombre de points marqués. C'est Joel Embiid le meilleur score de la ligue.
2155 points devant DeRozan.
En cumulé, tu veux dire.
En cumulé, c'est pas les moyennes. Ouais,
c'est pas les moyennes, c'est en cumulé.
Ouais.
Oui, en cumulé. Okay, le nombre de points inscrits cette saison.
Ah, ok.
Et en passe D, 737 devant Chris Paul, 702.
Ah, d'accord.
C'est absolument fabuleux,
bravo,
quand même, non?
Bravo.
C'est beau.
Bravo.
C'est beau.
Ça veut dire qu'il a joué beaucoup de matchs.
Ça veut dire, alors, ça veut dire qu'il a plus joué que les autres, évidemment.
C'est pour ça qu'il peut passer Atlanta. Ouais.
Ça compte énormément, mais c'est, je trouve ça hallucinant.
Trae Young, sa saison qui est passée un petit peu sous silence parce que Atlanta.
À part ses matchs contre New York.
Atlanta était en deçà par rapport à la saison dernière. Mais Trae Young, il porte les Hawks et je pense qu'il va emmener les Hawks.
Bon, une nouvelle fois, il n'y a pas eu photo. Victoire de Stephen Brun, messieurs. À la semaine prochaine.
Ciao Pierrot.
RMC Basket Time.